Shalom Bracha, Boker Tov les Koulam, Boker Tov mesdames. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Voilà, on est revenu dans les bonnes habitudes où je vous demande de me faire signe avant qu'on puisse lancer notre étude. Donc voilà, petit signe de vie. Est-ce que tout va bien et on est bien et on peut commencer? Oui, oui, non, non. Oui, eh bien, c'est très bien. Alors, allons-y. Bokatov les Koulam, on revient dans un nouvel épisode de la Névoa dans tous ses états, épisode 13. 13e épisode. Hein, on n'y réfléchit pas comme ça, mais en fait, ça fait déjà plus de 3 mois qu'on étudie le Tanakh au gré des prophéties. Baruch HaShem. Et donc, aujourd'hui, eh bien, nous ouvrons un nouveau livre du Tanakh. Puisque aujourd'hui, nous entrons dans le Sefer Melachim. Sefer Melachim, Aleph, chapitre Aleph, verset Aleph. Voilà, c'est facile à trouver. Je laisse quelques secondes pour celles qui veulent prendre le texte. Melachim, Aleph, chapitre Aleph, verset Aleph. OK ? Alors, allons-y. Sefer Melachim est un livre extrêmement particulier. Pourquoi un livre extrêmement particulier? Eh bien, parce que, historiquement, il se place dans une période qui est la période de la moitié. Ça veut dire quoi, la période de la moitié? Eh bien, ça veut dire que, tout simplement, depuis la création du monde, tel que, évidemment, on parle d'Adam Harishon, hein, bien sûr, depuis la création, le moment où l'histoire commence avec Adam Harishon dans ce monde et jusqu'à l'avènement de l'an 6000, eh bien, si on y réfléchit 2 petites secondes et qu'on se fait notre petit calcul, eh bien, on arrive à la moitié de l'histoire en l'an 3000, eh bien, au moment du règne de Shlomo HaMelech, c'est-à-dire le début du livre de Melachim. On est donc dans la deuxième partie de l'histoire. Sefer Melachim est marqué également dans un autre livre du Tanakh. C'est-à-dire qu'on va trouver pratiquement les mêmes événements qui sont mentionnés dans le livre de Melachim, on va les trouver également dans le livre de Divrei Hayamim, avec une différence. Dans Divrei Hayamim, tous les fashlot, tous les erreurs, tous les problèmes qu'il y a pu avoir dans la royauté d'Israël n'en sont pas mentionnés. Alors que dans Shmuel et dans Melachim particulièrement, eh bien, on ne va absolument pas faire l'impasse sur les problèmes pour nous expliquer que la royauté d'Israël qui doit amener à l'avènement messianique, eh bien, n'a pas peur de faire face aux problèmes. Il y a des problèmes, nos personnages principaux ont eu des problèmes, on a vu la semaine dernière entre David et Bathsheba par exemple, et ce n'est pas pour ça qu'on va lâcher le bord, c'est pas pour ça qu'on va abandonner l'idée de l'etaken olam bemalchut shaddai. Donc nous entrons aujourd'hui dans notre livre de Melachim et nous allons voir la transition entre David et Shlomo. Il faut bien comprendre que Shlomo, c'est la Pisga. On va y arriver, on va revenir ensuite sur le texte lui-même, on va parler de David, mais simplement en tant qu'introduction, il faut savoir que Shlomo ze a Pisga. C'est quoi? C'est la... Oh là, Pisga, Pisga, c'est le top. C'est le top. Shlomo, c'est le top. Comment ça, c'est le top? Vous savez que la royauté d'Israël est comparée à la lune, comparée par rapport à la royauté des nations, qui est le soleil. La lune, nous dit le Sefer HaZohar, atteint avec Shlomo son état parfait. C'est le top. Et Avshalom, il compte pour du beurre, on ne parle pas de lui. Je me suis beaucoup tâté. La vérité, je me suis beaucoup tâté. Est-ce qu'on va parler de Avshalom ou on ne va pas parler de Avshalom? Je ne sais pas, je me suis tâté et finalement, j'ai dit non. Finalement, j'ai dit non. Voilà, parce que si tu me dis on va parler d'Avshalom, il faut qu'on parle aussi d'Amnon et Tamar, et machin, on ne fait pas une étude suivie, malheureusement pour l'instant, du livre du Tanakh, Il y a plein d'événements dans Shoftim qu'on n'a pas évoqués. Il y a plein d'événements dans Shmuel qu'on n'a pas évoqués. Donc, En Mala Asot, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas parler de Avshalom, ne serait-ce que par respect pour David. Mais bon, ça, ce n'est pas vraiment une excuse, mais En Mala Asot. Quoi qu'il en soit, Shlomo, c'est la Pisga. Shlomo, c'est le top. Et donc, je disais, la royauté d'Israël est comparée à la Lune. La Lune a deux phases. Une phase de montée et une phase de chute. Il y a 15 jours pour arriver dans la phase de montée à la pleine Lune et 15 jours pour la faire descendre. Eh bien, il y a 15 générations pour arriver à Shlomo et 15 générations pour arriver à la chute de la royauté d'Israël. 15 générations pour arriver à Shlomo. Depuis Avraham Avinu, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu va atteindre son paroxysme jusqu'à Shlomo en 15 générations. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Peretz, Chetzron. Ensuite, on a, oh là là, Chetzron, Salma, ah non, Ram, slicha, Ram, Chetzron, Salma. Attends. Il m'en manque un. Boaz, Oven, Ishaël. Il m'en manque au milieu. Attends. Bon, on va refaire le compte. Mais. Non, mais même dans la Megillat Ruth, on n'a pas tout. On n'a pas tout le truc. Je m'en rappelle plus. Il m'en manque. Il m'en manque 2-3 au milieu. Attends, voir. Ah, voilà. Donc, on a effectivement Peretz, ensuite Retzron, ensuite Ram, ensuite Aminadav et Nachshon. Il manque Aminadav et Nachshon, Salma, Boaz, Oved, Ishaï, David et Shlomo. Donc, 15 générations pour arriver à Shlomo. Et on aura également 15 générations de Shlomo à Tzidkiyahu Melech Yehuda, le dernier roi de Judée. Donc, on voit qu'on est vraiment en train d'atteindre un tournant. Un tournant dans l'histoire, la passation de pouvoir entre David et Shlomo, eh bien, est fondamentale. Pour la première fois, Shlomo peut devenir le Mashiach. Shlomo est Ben David. Shlomo est Mashuach Beshemen Amishra, pour les raisons qu'on va évoquer maintenant. Donc, il est vraiment la première possibilité d'une... d'un complément de l'histoire pour arriver au top. Alors, maintenant qu'on a mis en place cette introduction, rentrons dans les versets. Vamelach David zaken ba bayamim vayechasu ba begadim velo yichamlo. Nakhon, Shlomo c'est la pleine lune. Nakhon. Bekitzur, vamelach David zaken ba bayamim vayechasu ba begadim velo yichamlo. David, Mazezaken, il a 70 ans. Nous dit Razal, ou Zaha le Zikna. Zikna, il ne s'agit pas de la vieillesse. Zekana Chochma. Zikna, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où maintenant il peut exprimer sa Chochma. Et oui, à partir de maintenant, David, que fait-il? À 70 ans, David n'est plus le David qu'on a connu dans le livre de Shmuel. Jusqu'à la fin de Shmuel, David fait quoi? David fait la guerre. Jusqu'à la fin du livre de Shmuel, David est le combattant qui va mettre en place la royauté d'Israël. Maintenant, David ne se bat plus. Ça y est, David ne se bat plus. Alors de quoi occupe-t-il ses journées? Quelle coïncidence! Avraham Zaken Baba Yamim! Oh là là! C'est vrai, tu n'as pas tort, à la différence près que David a 70 ans et qu'au moment où Avraham Zaken Baba Yamim, eh ben, il en a, si je ne m'abuse, il en a 137. Pour être exact, 140. Donc oui, effectivement, c'est le double Avraham que David. Mais bon, donc, de quoi s'occupe David maintenant? Eh bien, David s'occupe d'une seule chose maintenant, de préparer le terrain pour le Beth Amikdash. En d'autres termes, David a terminé de s'occuper des forces de ce monde-ci. Il s'occupe maintenant de préparer l'avènement du Olam Haba. Aré Bet HaMikdash, c'est la porte du huitième jour, c'est l'ambassade du huitième jour dans notre monde. David s'occupe maintenant de cela. Et donc, quand on nous dit « Vayechassu ba begadim velo yichamlo », il a froid, il n'a plus ses forces de vie. C'est ça que ça veut dire, qu'il a froid. Et tous ces hommes, « Vayomru lo avadav, vayevakshu » Ala Adoni Ameler, Neara Betula, Vamda Lifna Ameler, Vateilo, Sochenet, Veshachva, Becheka, Bechekecha, Slicha, Veshachva, Bechekecha. Maintenant, les amis, de quoi parle-t-on? Les Avde Ameler, ces hommes, ces serviteurs, qui ont connu David comme étant, eh bien, le grand guerrier qu'il a été. Un guerrier, c'est quelqu'un qui utilise des forces de vie absolument incroyables. Il utilise toutes ses forces de vie. Pourquoi la Torah a permis Isha Yefat Tohar à la guerre, la belle captive? Parce que on sait que le soldat qui est en train de donner toutes ses forces de vie et qui les met dans la mêlée, eh ben, il a besoin des fois de sortir quelques pulsions. Et la Torah va donc calmer ses pulsions en mettant en place des barrières. Mais David a terminé d'utiliser ses forces de vie. Attends, Léat. Il a terminé d'utiliser ses forces de vie dans le Olam Hazé. Et donc, c'est Avadim qui vivent à ses côtés depuis le début. Ils lui disent, il te manque certainement un peu d'énergie, pas. Donc, on va te donner Nahara Betula. Veicham l'a donné à Meler. Est-ce que ça va marcher? Non, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Mais parce que ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème n'est pas qu'il ait froid physiquement. Peut-être qu'il avait froid, effectivement, David. Mais ce n'est pas ça qui est en jeu là maintenant. Ce que ne comprennent pas les Avdei Ameler, c'est que pour le moment, David n'est plus en train de s'occuper de conquérir ce monde. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il veut amener la Neshama à ce monde. Le froid qu'il ressent n'est pas le froid d'un manque physique, mais c'est le froid de l'incomplet, du fait de ce monde qui est incomplet, car il lui manque sa neshama. Il se veut s'occuper du Beit HaMikdash. Donc, lorsqu'on va lui donner une Nahara Betula, c'est Zelo Yavod. Zelo Yavod. Du moins, Zelo Yavod, comme les serviteurs du roi pensaient que ça allait marcher. Effectivement, nos sages vont parler de David et de sa frilosité, nous disant que c'est le résultant de quelque chose. Pourquoi David a froid? Bayomo Acharon, Vayechassu ba begadim velo yichamlo. S'il a froid, mettons-lui une couverture chauffante. Hein, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Bien parce que nous disent nos sages, effectivement, dans le Talmud, que la raison pour laquelle les begadim ne le réchauffent pas, c'est parce que David a manqué de respect à cause des Bgadim. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on? Rappelez-vous, Sefer Shmuel, Shmuel Aleph, David est poursuivi par Shaoul. Shaoul est le Melech Israël. David est poursuivi par Shaoul, et alors qu'ils sont à En-Gedi, eh bien, Shaoul le poursuit pour le tuer. David se cache dans une grotte à En-Gedi, la même grotte dans laquelle Shaoul et ses hommes vont se passer la nuit. Et pendant la nuit, David a la possibilité de tuer Shaoul. Halakhiquement parlant, il aurait pu le tuer, puisque il est d'In Rodef. Shaoul essaye de le tuer depuis quelques temps. Donc, il aurait pu le tuer, mais il refuse. Pourquoi il s'y refuse alors que ses hommes lui disent « Mais vas-y !» Il s'y refuse en disant « Avalou Melech Israël !» C'est lui le roi d'Israël. De quoi? Il y a tout de suite régalité de quoi? De quoi? De qui? De quand? Je ne sais pas de quoi tu parles. Il faut que tu me dises, Laurence, à quoi tu fais référence. Là, en l'occurrence, il pourrait le tuer, donc on a dit, il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Bien parce qu'il dit, mais Shaoul, c'est Melech Israël. Il est hors de question que je porte la main sur le roi d'Israël. Et donc, justement, il décide de lui couper un morceau de son manteau. Et le lendemain matin, alors que Shaoul se réveille, David se dévoile à lui et à Avner ben Ner, il dit « Regardez, les gars, je suis là. J'aurais pu vous tuer ce soir. ainsi prendre le pouvoir. J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que tu es Melech Israël. Oui, mais attention. Melech Israël, Ameil, Shel Melech Israël, Zebigde Malchut. Le fait que tu aies porté atteinte au manteau de Shaoul montre que chez toi, il y a eu un bug au niveau de Kvod Amalchut. Ainsi, Lochamlo Besof Malchuto. Il a porté atteinte à l'honneur du Melech Israël, même s'il avait des raisons de le faire. Ainsi, sa malchoute ne termine pas dans cette chaleur. Il va falloir attendre que Shlomo ramène Kvod à malchoute. David est Melech Israël, bien sûr. Mais il y a énormément de zones compliquées dans la malchoute de Shlomo. Justement, tu parlais tout à l'heure de Avshalom, on n'a pas parlé de Avshalom, mais c'est un vrai problème dans la royauté de David, Avshalom. En d'autres termes, le fait qu'il n'arrive pas à l'Eitramem Babegadim veut nous montrer qu'il est temps justement de passer à un stade où la malchoute qui représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur terre, la malchoute du peuple juif, soit libéré des drames du passé. Tu demandais pourquoi est-ce que c'est maintenant le passage entre Shmuel et Melachim ? Eh bien, à cause de ça. Car maintenant, on veut justement montrer qu'il est temps d'amener la Malchut Israël à sa dimension de Bet Amikdash, à sa dimension de Kulo Omer Kavod. À Bet Amikdash ou Kvodo Shel Olam. Donc, on passe maintenant, grâce à cette transition de David qui a froid, à Shlomo qui va ramener la chaleur dans le monde. Et donc, ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית, והביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת, ותשרתהו, והמלך לא ידע. Donc on voit bien qu'ici, ils ont trouvé la plus belle femme du royaume, Avishag, et on voit très bien que bah, le but de David n'est pas de se renforcer dans ses forces physiques. Il ne l'a pas connue, il ne l'a pas touchée, ils n'ont pas eu de relation l'une et l'autre. Non, David n'a pas été avec Avishag. Donc ça montre bien que David cherche autre chose. David, est-ce qu'il est l'idéal de la royauté? Non. David n'est pas l'idéal de la royauté. David est le père de l'idéal de la royauté. Eh oui, le Mashiach, ce n'est pas David. Le Mashiach, il est Ben David. De la même façon que Adam n'est pas l'idéal de l'humanité, le Mashiach s'appelle également Ben Adam dans le livre de Yechezkel. Donc David, si tu veux, il est l'idéal de celui qui est l'exemple idéal que va devoir suivre Shlomo, en prenant tout ce qu'il y a à prendre et en, justement, se gardant de tout ce qu'il y avait à se garder. Donc, si tu veux, David n'est pas l'idéal, David est le père de l'idéal. OK ? והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת, והמלך לא ידע, ואדוניה בן חגית, מתנשא למור אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. אהה! אדוניהו בן חגית. אדוניה? אדוניה ורניה? אינטרסנט. אדוניה זה מי? אדוניה זה הפרושן בליסט דה פרטנדן לטרון. אה, וואי. מה, וואי. Il y a eu le premier fils de David qui était un prétendant au trône qui s'appelait le premier fils de David. Bah, Shalom. Bon, ça s'est pas bien terminé. Ensuite, il y a un autre fils qui s'appelle Kilav, Ben David, mais Kilav renonce à faire partie du Olam Hazeh. Il est Kol Kulo Kadosh Lahashem. Il ne veut pas du tout de royauté. Et arrive maintenant, Adoniyahu. Il est le successeur légitime, il y avait eu Amnon, mais Amnon, bon ben, plus là non plus. Et donc arrive maintenant Adoniaou. Adoniaou est le successeur légitime en termes de filiation et de transmission de la royauté. C'est à lui de régner. Alors certes, ça ne marchera pas parce que Dieu a choisi Shlomo. Il a envoyé Nathan et il y a une névoie qui a dit que ça allait être le fils de Bathsheba, le deuxième fils de Bathsheba, Shlomo, qui allait régner. Est-ce que David a failli dans l'éducation de ses enfants ? Tu crois vraiment que je vais, moi, porter un jugement sur David, Melech Israël ? Hein ? Ils se rebellent tous contre lui. D'abord, non. C'est pas vrai. Il n'y a que Avshalom qui se rebelle contre lui. Amnon, il ne se rebelle pas contre David. Il fait une faute avec sa sœur. Il ne se rebelle pas contre son père. Adonia, il ne se rebelle pas contre son père. Il veut, maintenant que son père est en train de défaillir, prendre le pouvoir parce que c'est lui le plus âgé et c'est à lui de prendre le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il se rebelle contre papa. C'est-à-dire ? Donc, et puis tu vois que Shlomo, ça a très bien réussi son éducation. Qu'il ave, très bien réussi son éducation. Les filles de David, les tzadikotes. Donc, tu ne peux pas dire tous les enfants de David n'ont pas eu. Non, il y a Amnon et Avshalom qui ont pas, qui sont partis en cacahuète. Il faudrait étudier chaque chose, mais on a dit qu'on n'étudie pas la paracha de Amnon et Tamar et la paracha de Avshalom. Bekitsour, il te dit, Vaitnasel Imlor, il veut régner, il est légitime pour ça. Légitime au niveau de quoi ? De la filiation naturelle, mais il n'est pas légitime au niveau de la névoie. Or, le Ben David, son rôle, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Son rôle, c'est de construire le Beth Amikdash. Son rôle, c'est d'être Melech Israël chez Megale Malchut Hashem. Ok ? Donc, justement, Adoniaou, il a un grand problème. Adoniaou, il lui manque à chaque fois un truc. C'est-à-dire qu'il a le début comme il faut, mais il lui manque un truc. Il s'appelle Adoniaou. Vous savez, dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, se prononce Adonai. Et bien, Adoniaou, il a ces deux noms dans son nom, mais il lui manque à chaque fois la dernière lettre. Il a Adon et Yahou. Yud, He et Vav. Il lui manque le dernier He. Et il lui manque le Yud de Adnout. Donc, si tu veux, Adoniaou, il a des très bonnes bases, mais il lui manque la finalité. Il ne peut pas tenir la distance. Mais il essaye. Mitnasel les morts, ani emlor, vayas lo rechev parashim v'chamishim mishratzim lefanav. Bon, c'est bien, il s'est fait une pyrotechnique pour se mettre en avant, mais il a besoin de soutien du monde de la Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, velo atzavu aviv miyamav, les morts madoua kacha sita, vegamu tov tohar meod, veoto yalda acharav shalom, veyu devarav im Yoav ben Tsruya. Aha, Yoav est le soutien numéro un de Adoniaou. Mais Yoav, c'était le meilleur copain de David. Nachon. Mais depuis que Yoav a tué Avner, il a été écarté. Vous voyez qu'il y a ici une tension politique énorme. Mais il n'y a pas que Yoav dans l'histoire. Ve'imeviatar haKohen ve'yazru acharei Adoniaou. Misez Eviatar haKohen. Misez Eviatar. Eviatar. Eviatar, il avait été avec Avshalom. Eviatar haKohen, c'est qui? Eviatar haKohen, il est le descendant de Beth Eli, de Shiloh, début du Sefer Shmuel. Mais le problème, c'est que Beth Eli, ils viennent de Itamar. Normalement, les Kohanim Gedolim, ils viennent de Elazar. Elazar, de Pinchas. Eviatar haKohen, ils ont pris le pouvoir. À un moment donné, il y a dû avoir un problème de succession. Et c'est Béné Itamar qui ont pris la Kehuna Gedola. Finalement, il va falloir attendre toute cette histoire pour que Tzadok, qui est Mibet et Lazar, redevienne le Kohen Gedol. Il y a ici donc un jeu de pouvoir énorme entre ceux qui représentent le Bediavad et ceux qui représentent les Khatrila. Les Khatrila, c'est Shlomo, parce que le Khatrila, c'est Dieu qui l'a choisi. Bediavad, ce sera Adoniaou. Les Khatrila, c'est Benayahu Ben Yehoyada, qui est et le Sarat Sava et le Nasi HaSanhedrin. Bediavad, Yoav Ben Seruya, qui est juste Sarat Sava. Les Khatrila, Tzadok HaKohen. Bediavad, Eviatar HaKohen. Donc, on a ici deux ambiances. On a l'ambiance Lechatrila, idéal, et l'ambiance, on fait avec ce qu'on a. Vaisbar, Vetzadok HaKohen, Benayor, Ben Yehoyada, Venatan, Navi, Veshimi, Verei, Agiborim, Asher le David, Lo Yuim Adoniahu. Évidemment, il y a une information qui, quand même, a son poids. C'est que, avec David, est resté Nathan à Navi. C'est-à-dire la névoa, elle n'est pas avec Adoniahu. Et ça, c'est le problème. La névoa, c'est Hachem Imo. Hachem Imo, en mal à Asot. Adoniahu, il n'a pas eu ça. Vaisbar Adoniahu, Tzono Bakar Umeri, Im Even Azochelet Asher Etzel En Rogel, Vaikra Et Kol Echav Bene Amelech, Lechol Anshe Yehuda Avde Amelech, Ve'et Nathan à Navi ou Benayahu. Ve'et Agiborim, ve'et Shlomo, Echi, lo kara. Évidemment, il veut faire un putsch, il ne va pas appeler ceux qui sont les opposants politiques. Mais ça va laisser le champ libre maintenant pour couronner Shlomo. Pourquoi a-t-il fallu que cette histoire arrive? Justement pour que Shlomo puisse recevoir le Shemen Amishra. Il faut comprendre. Néoin que le roi d'une nouvelle dynastie. C'est-à-dire David a été oint, Shaoul avait été oint avant lui, mais comme David n'est pas le fils de Shaoul, alors il a été oint, Nachon. Mais normalement, si le prochain roi est le fils légitime du dernier roi, on n'a pas besoin de lui donner de l'huile d'onction. Donc Shlomo ne devrait pas être oint. Mais comme il y a ici un litige sur qui va être le successeur, alors on va oindre Shlomo pour bien montrer que c'est lui. Ce qui va pouvoir faire de lui à Mashiach. Mashiach, on a dit, celui qui a reçu Shemen Amishra. Mashiach, ça veut dire le oint. Et donc, toute l'histoire de Adoniahu est là, est mise en place pour que Shlomo voit son règne être sponsorisé par Dieu. Alors, regardez ce qui se passe dans le texte. Vayomer Nathan el Bat Sheva. הם שלמה למור, הלא שמעת כי מלאך אדוניהו בן חגית ועודנו דוד לא ידע, ועודנו דוד לא ידע. Donc c'est-à-dire que ça y est, Adoniahu s'est auto-couronné roi. Il y a à ce moment-là deux rois à Jérusalem. Il y a David et Adoniahu. ואתה לכי יעצר נא עצה ומלתי את נפשר ואת נפש בן השלמה. לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו, הלא אמרת, אתה אמרת, כן? אתה, אדוני המלך, נשבעת לאמרתך, למור כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי, ומדוע מלך אדוניהו? הנה הודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך מידי את דברייך. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, סליחה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותיקוד בת שבע ותשתחו למלך, ואומר המלך, מה לך? תומר לו, אדוני, אתה נשבעת בהשם אלוהיך, לאמתך, כי שלמה בנך ימלוך אחריי. והוא יושב על כיסי, ואתה, הנה אדוני המלך, ואתה, אדוני המלך, לא ידעת. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? David entend que le projet divin est en sakana. Qui est le seul qui peut régler le problème? C'est lui. Et donc, והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים. והנה עודנה מדברת עם המלך ונתן הנביא בא, והגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא ויבוא לפני המלך וישתחו למלך על ארצה הפעם, על הפעם ארצה, סליחה. ואומר נתן אדוני המלך, אתה אמרת אדוני ימלוך, אדוניהו ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי? כי ירד היום ויזבח שור ומרי וצאן לרוב. ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולבית הכהן, והנה אוכלים ושותים לפניו. Toute la mise en scène n'est pas la même chez Bathsheba et chez Nathan. Chez Bathsheba, elle a peur pour la vie de Shlomo. Nathan a peur pour la vie de David. Pour Bathsheba, le fait que Adonia soit roi, c'est dangereux pour Shlomo, il va faire tuer Shlomo. Parce que tout le monde sait que David avait ses Shlomo, donc il restera un rival potentiel. Donc il faut faire quelque chose pour épargner la vie de Shlomo. Et la sienne, Bathsheba, par la même occasion. Nathan, pour lui, celui qui est en danger, c'est David. Parce que si Adonia vient prendre la royauté, alors David n'est pas le roi qui est le père du Mashiach. Alors à ce moment-là, le règne de David n'aura pas fonctionné. C'est pour sauver David que Nathan vient montrer qu'il faut couronner Shlomo. À ce moment-là, eh bien alors, David se réveille. Iné, je suis au verset... Iné, verset Kafret. Vayana Melech, David. ויאמר קראו לי לבת שבע ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך וישבע המלך ויאמר חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה כי כאשר נשבעתי לך בהשם אלוהי ישראל לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסי תחתיי כי כן אעשה היום הזה ויאמר המלך דוד קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן יהוידע ויבוא לפני המלך David, pour couronner Shlomo, et c'est ça qui nous montre à quel point le couronnement de Shlomo est un idéal, David fait venir les quatre pouvoirs. Vous savez que dans le judaïsme, il y a quatre pouvoirs qui s'appellent Mishkan, Meler, Kohen, Shofet, Venavi. Et donc, pour venir couronner Shlomo, le roi, mais le roi Shah Shalom Shelo, alors on a besoin, un, du roi, de David, deux, du Kohen, Tzadok, 3, du Shofet, Benayahu Ben Yehoyada, chef du Sanhedrin, et du Navi, 4, Nathan, un Navi. En d'autres termes, le couronnement de Shlomo va être idéal. Qu'est-ce qui manquait à Adoniahu? Eh bien, à Adonia, il manquait le roi, il manquait le Navi, et il manquait le Shofet. Il n'avait que la Keuna. En d'autres termes, qu'est-ce qu'avait comme justification de royauté Adoniahou? Uniquement la justification religieuse. S'il n'y a que la justification religieuse, ça n'est pas Malchut Hashem. Malchut Hashem doit être la combinaison des quatre pouvoirs qui dévoilent la Kadosh Baruch. Et ainsi, chose faite, Zéou. Vayomer Amelech David qui roule le tzadok. ויאמר המלך, סליחה, ורסי למד גימל, ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון. אתה דוגון. כמו שלמה דו הדיסון לסורס גיחון? על הפרדה? על הפרדה? מילי? דבר? Alachiquement parlant, on n'a pas le droit d'élever des pradotes. On n'a pas le droit d'élever des mulets. Parce que c'est ce qu'on appelle Issur Kilaim. Donc, il n'y a aucune chance que David, son animal pour se déplacer, Zepered, Zepirda, Zeloved. Et là, il s'agit ici, évidemment, d'un enseignement. Toridou את שלמה על הפרדה אשר לי. יש לי בבית התפרדות. שלמה צריך למלוך על זה. שלמה דואה לרכוב על זה. שלמה, s'il veut pouvoir être David, le fils de David, le successeur, המלך, eh bien, il se doit d'être capable de dominer toutes les perudim, toutes les dissensions qu'il peut y avoir au sein de la famille. Shlomo, c'est le roi de la shalom. Agave, nous dirons Chazal que durant le règne de Shlomo, il n'y a pas eu une seule guerre dans tout le monde entier. Pas que lui, il n'a pas fait de guerre. Il n'y a pas eu de guerre bichlal. A guerre, à Milchama, Zebigla la Peroud chez Ben Anashim. Shlomo ou Rochev à la Pirda. Il est capable de s'élever au-delà de la dissension qu'il peut y avoir chez les uns et chez les autres. ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a trois rois à Jérusalem. Trois rois, il y a David, il y a Shlomo et Adoniaou. מה קורה עכשיו? Verset למד תת. ויקר צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל וימשך את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים בחלילים ושמחים שמחה גדולה ותיבקע הארץ בקולם וישמע אדוניהו ואת כל הקרואים וכל הקרואים אשר איתו והם קילו לאכול וישמע יואב את כל השופר ויאמר מדוע כל קריאה אומה עודנו מדבר והנה יונתן בן אביתר הכהן בא ויאמר אדוניהו בוא כי איש חיל אתה וטוב תבשר ויען יונתן ויאמר לאדוניהו אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה זהו אדוניה ce moment là a compris qu'il n'était plus roi. Le peuple a crié יחי המלך שלמה. Il n'a plus la légitimité du souverain, c'est Shlomo le roi. La question est maintenant de savoir qu'est-ce qu'on fait avec Adoniahu. Qu'est-ce qu'il va faire Adonia? Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, c'est très simple. Iné. Vaishlach ito amelech et tzadok ha-kohen ve et natan ha-navi ou ben ayahu ben yoyada ve akreti ve apeleti. Mais c'est akreti ve apeleti? C'est anshe ha-tzava shelo. Ve'erkevu oto al pirdat ha-melech ve'imshechu oto tzadok ha-kohen kam shedit alor le-melech ba-gichon ve'yalu mishan tzumechim ve'teim ve'kriya u'kol ha-asher shamatem ve'gam yashav shlomo al kisei ha-melucha. וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו, המלך דוד, למור, יתב אלוהים את שם שלמה משמך, ויגדל את כיסאו מכיסך, וישתחו המלך על המשכב. שלמה est assis sur כיסא המלכות. Et la bracha que tout le monde lui donne, c'est que Shlomo soit plus grand que toi. C'est la meilleure bracha qu'on puisse donner à un père. Que Shlomo te surpasse, que ton fils te surpasse. Otaï, te surpasse donc en quoi? Ben, fasse ce que tu n'as pas réussi à faire. De quoi parle-t-on? Bet Hamikdash. Voilà ce qu'on demande à Shlomo de réaliser. Shlomo va tous les mettre à mort. Nachon, Bevadai, tout à fait. Pourquoi il va les mettre à mort? Parce que Shlomo est roi. Et qu'il est tout à fait conscient que ceux qui sont mordim bamalchut, eh bien, ils sont un danger pour le peuple entier. Ils sont un danger pour le pays tout entier. Les Havdil, Elef Alfe Havdalot. Mais, mon ami, lorsque finalement le conseil machin hein, décide d'arrêter Napoléon et de le faire partir en exil, lorsque Napoléon va revenir de son premier exil, à l'île d'Elbe, et qui revient en France. Les amis, le retour de Napoléon, qui a décidé de ne pas perdre son trône et qui veut le récupérer, va coûter des centaines de milliers de morts. Eh oui, Waterloo. Donc, quelqu'un qui est à l'époque le roi à la place de Napoléon, ou le chef de l'État, il ne peut pas laisser un truc comme ça arriver. Donc Shlomo, il va mettre à mort tous les gens qui sont morts d'Imba Malchut, parce que c'est pour le bien du peuple. El Mala Asot. Ok? Ça s'appelle gouverner, tout simplement. S'il y a des gens qui veulent faire un putsch, tu ne peux pas les laisser faire. El Mala Asot. Vayecherdu vayakumu. Akoui mashallah adoniyahu velechou vishlachot. Adoniyahu yarem ipene Shlomo. ויקום וילר ויחזק בקרנות המזבח. אדוניה הקומפרי. היא לפר מתנות לשלמה. היא בעיה רזון. אגב, כאלה השאלה שלמה? שלמה הדוזון. il a 12 ans quand il règne. Il monte sur le trône, il a 12 ans. Voilà. Il construit le Beth Amikdash 4 ans plus tard, à 16 ans. Ah oui, on est loin de l'image de Shlomo, un homme d'âge mûr. Il est mûr. Il est d'une sagesse incroyable, mais il a 12 ans. Adonia va s'enfuir les Roz Bekarnot Amisbeach. Vayomer vayugad li Shlomo lemor ine Adonia u yaret amelach Shlomo veine achaz bekarnot amisbeach lemor yishavali kayom melach Shlomo im yamit et shavdo bacharev. Agav, beze misbeach hu alach? Il s'est mis sur les pointes du misbeach. Quel misbeach? Yesh tedeot bechazal. Où il a été jusqu'à Shiloh? Ok, donc où il a été jusqu'à Shiloh, où Karnot HaMizbeach que David a mis en place Begoren Aravna Yevusi, ce qui est beaucoup plus probable dans l'histoire, qu'il est parti au Har Moriah, à Arabait, et où d'ochez Karnot HaMizbeach. Vayomer Shlomo, im yele ben chayil lo yipol misha'arato, arz misha'arato arza, veim ra'a timatze bo vamet. וישתח המלך שלמה ויורידו מעל המזבח ויבוא וישתחו למלך שלמה ויאמר לשלמה לך לביתך. שלמה commence son règne en ne tuant pas son frère. Il avait toutes les raisons de le faire. Il avait toutes les raisons de le faire. אבל שלמה commence son règne en ne tuant pas son frère. Si vous n'avez pas compris de quoi il s'agit ici, il s'agit ici de Tikkun Chet Kain Ve'evel. Shlomo commence son règne en corrigeant la faute du premier Ben Adam. Car Shlomo doit devenir le Ben Adam par excellence. Le premier Ben Adam a tué son frère. Shlomo, alors qu'il avait toutes les raisons peut-être de le faire, eh bien, il commence son règne en ne tuant pas son frère. Ou Metaken et Chet Kain. Vaikrevu yeme David Lamoud Vaetzav et Shlomo Beno Lemor. אנוכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש ושמרת את משמרת השם אלוהיך ללכת בדרכיו לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ואת דותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. למען יקים השם את דברו אשר דיבר אליי למור אם ישמרו בניך את דרכה, את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם. C'est-à-dire pourquoi est-ce que tu dois être dans le chemin de la Torah et de Moshe? Non, il n'attendait pas la mort de David pour le faire. Il attendait la prochaine trahison de Adonia pour le faire. C'est-à-dire qu'il lui donne une chance ici. Shlomo, ce n'est pas un pigeon. Ou Metaken, ou Ishalom, mais ce n'est pas un frayeur. Lorsque Adonia va venir et va demander de se marier avec Avishag, alors il comprend très bien qu'en cela, il veut se redonner une légitimité pour régner, parce qu'Avishag était la compagne du roi, et donc il veut se redonner une légitimité. À ce moment-là, Shlomo, il dit, bon, bah, ça y est, combien tu vas te révolter? Et donc là, il n'y a pas le choix, et il va le tuer. Mais ce n'est pas, je voulais le tuer dès le départ, non, je voulais permettre de lui laisser une chance, tant pis pour lui, après il a le libre arbitre, Adonia. S'il a envie de faire n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Rabotai, Shlomo, lorsqu'il monte sur le trône, David lui dit, tu te dois d'être celui qui va l'avoir représentant de Dieu dans ce monde, métaver, si on veut, au titre de apoutropous. Non, attention, il ne s'agit pas d'idolâtrie. Je suis en train de dire que Shlomo devient divin sur terre. Absolument pas. Mais jusqu'à présent, il manquait quelque chose pour que la royauté d'Akadosh Baruch Hu puisse véritablement s'exprimer par Olam Hazeh. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait le lien qui unit le Melech au Mikdash. Je fais un spoiler en avant, mais lorsque Shlomo va rencontrer Bathsheba, n'importe quoi. Lorsque Shlomo va rencontrer Malkat Shva, il va lui montrer plein de choses. Mais il y a une seule chose qui va la laisser sans voix. c'est quoi? Et ta Ola Asher Ma'ale Bet Hashem. Alors on peut penser c'est le sacrifice, Korban Ola. On dit Chazal, non, non, non. Parce que pourquoi est-ce que le Korban Ola, ça l'a fait, laisse sans voix, elle en a déjà vu plein des Korbanot. Dis non, Zashvil, Shemechaber Ben Bet Amelech, le Ben Bet Amikdash. Et ça, waouh, j'ai jamais vu qu'il y avait un lien tellement fort entre le roi Po et le roi là-haut. Shlomo est celui qui doit faire le lien entre Bet Amelech et Bet Hashem. Ou plus exactement, entre Bet Hashem et Bet Amelech. Veine, veine, vayemi, vayishkav, David, imavotav, vayikaver, beir David. De là, on apprend bien que le tombeau du roi David sur le mont Sion, ben c'est pas le tombeau de David. Malasot. Malasot. Que Kever David, Zélo Kever David. Kever David ou Be'er David. Où exactement, on n'a pas trouvé encore. Mais il n'est certainement pas au Har Sion. En Malasot. Maintenant, d'autant plus qu'on sait exactement qui a inventé la massorette du tombeau de David, là où on montre aux touristes le tombeau de David. On sait que c'est une massorette chrétienne. On sait quand elle a été inventée, au XIe siècle, et dans quelles circonstances. David ou Kavur Be'ir David, Im Avotav. Azé Im Avotav. Efoze Avotav. Caché, hein? Ishaï? Ishaï? Attendez. Alors, il n'est pas enterré à Ir David. Où il est enterré? À Hebron. Ishaï, il est enterré à Hebron. La ville de David, la ville dans laquelle il a régné dans un premier temps, c'est Hebron. La capitale du royaume de Yehuda, c'est Hebron. Et donc, Ishaï, en tant que chef de la tribu de Yehuda, il est enterré à Hebron. Comme ont été enterrés avant lui les chefs d'Israël de la tribu de Yehuda. Donc lorsqu'on nous dit que David est enterré, Be'ir David, eh bien certains des commentateurs disent Be'ir David à Jérusalem, d'autres vont dire non, Zéhébron. Dans tous les cas, la mort de David marque le début du règne de Shlomo, c'est-à-dire le début de la réalisation de l'idéal. Mazé à réalisation de l'idéal, eh bien, nous dira ici c'est ça. Nous dira ici Shlomo dans la fin du chapitre 2, dans la fin du chapitre Bet du livre de Melachim Aleph. Nous dit Vaishava au verset Kaf Gimel. Vaishava amelech Shlomo ba'ashem lemor. Ko ya'aseli Elohim vecho yosif ki benafsho diber Adoniyahu et hadavar hazeh. ואתה חי השם אשר אחינני ויושיבני על כיסא דוד אבי ואשר עשה לי בית כאשר דיבר כי היום יומת אדוניהו וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימות כמו נדית ותלך c'est après que אדוניהו est demandé de s'unir avec אבישג השונמית et à partir de ce moment là alors qu'est-ce qui se passe dans la maison de David dans la maison de Shlomo et bien c'est très simple. Une fois que c'est terminé, eh bien, Zéou, Shlomo peut arriver à ce moment-là à la Shevet Bekissé Hachem. Les deux premiers chapitres du livre de Melachim sont là pour mettre en place Malchut Shlomo. Malchut Shlomo s'appelle dans le Tanakh Vayeshev al Kissé Hachem. Vayeshev al Kissé Hachem. Enfin, un roi qui a relié la malchoute d'en bas à la malchoute d'en haut. Pour ce faire, pour que cette malchoute, qui est la malchoute de Ben David, c'est-à-dire l'idéal, David n'était que la préparation à cet idéal, eh bien, pour ce faire, il manque encore une chose, à savoir, fameux Bet Amikdash que Shlomo va construire dans le monde. Le temple de Salomon. Beit Amikdash Arishon va être la concrétisation de l'idéal de la royauté d'Israël. pour les chaber, unir entre ce monde et là-haut, pour être capable de réaliser le projet divin, à savoir d'alimlor ici. La sotlo, comme dira le rabbi de Lubavitch, dira batartonim. Ze bet amikdash, ze shlomo amelech. Ainsi, eh bien, les deux premiers chapitres du livre de Melachim nous expliquent comment on passe d'une préparation à un idéal. L'idéal, ze shlomo. Amelech sha shalom shelo. Oui, pour arriver au shalom, il a dû d'abord faire le ménage dans son royaume. Bien sûr, parce qu'un roi ne peut pas être constamment pris à partie par les gens de son royaume. S'il veut pouvoir faire shalom avec le monde entier, il doit d'abord avoir un royaume qui tient la route. C'est ce qui se passe dans le chapitre 2. Il est donc maintenant prêt à construire Beit Hashem. Et c'est ce que nous verrons. La construction et l'inauguration du Beit HaMikdash à Rishon, mais comme Asharat HaShchina, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de la Nevoa dans tous ses états. À bientôt les amis, et Shabbat Shalom.